France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie Perrier, sonnez les Nigérians après le report surprise de leur élection.
Report pour des problèmes de logistique officiellement. Des bulletins et des urnes ne sont pas arrivés à temps pour le vote. L'annonce a été faite en pleine nuit samedi, quelques heures avant l'heure prévue d'ouverture donc de ces bureaux de vote. Et depuis, le pays fait les comptes. Ce décalage d'une semaine du scrutin pourrait coûter plusieurs milliards de dollars. Car on parle ici du Nigeria, géant de l'Afrique de l'Ouest. 190 millions d'habitants, dont 80 millions d'électeurs. Et pour beaucoup, se rendre au bureau de vote est un périple. Ils ont appris le report trop tard. Ici, un habitant de Dora, interrogé par le correspondant de la BBC. Il raconte qu'il est parti la veille et il raconte aussi les difficultés du voyage quand on n'a pas d'argent pour les transports publics. C'est un sacrifice financier. Et là, donc, il se retrouve bloqué et donc très en colère. Alors beaucoup, comme lui, ont quitté la ville pour se rendre dans leur région d'origine, où ils sont inscrits sur les listes électorales. D'ailleurs, en prévision de ces grandes transhumances, la plupart des entreprises ont fermé vendredi, l'immense port de Lagos aussi, pour permettre aux salariés de faire le voyage. Le patron de la chambre de commerce de Lagos, la plus grande ville, estime à 1,5 milliard de dollars les pertes sèches. Et au-delà, les économistes craignent une érosion de la confiance des investisseurs au Nigeria, une réputation entachée. Sur le long terme, certains parlent de 9 à 10 milliards de dollars de pertes, 2 points de PIB. Sans parler du coût politique, de la colère de tout un pays, elle devrait se faire entendre dans les urnes pour les scrutins présidentiels, législatifs et sénatoriaux. Ce sera donc le week-end prochain.
La Belgique s'attaque enfin à la rénovation de ses prisons.
Enfin, car depuis des années, les critiques pleuvent sur les cellules de notre voisin. Un rapport très sévère du Comité européen pour la prévention de la torture, des avis internes sans concession, et puis cette affaire avec les Pays-Bas voisins. C'était à l'été 2017, ils ont refusé de transférer des prisonniers en Belgique à cause de ces rapports. Écoutez, Polly van Dijk, porte-parole du tribunal d'Amsterdam à l'époque. Alors elle dit, un rapport a montré que pendant, par exemple, la période de grève, les détenus étaient restés pendant près de 24 heures d'affilée dans leurs cellules. Le comité dit aussi que trop peu de mesures sont prises pour éviter cela lors des prochaines grèves. Alors, les Pays-Bas pointent aussi la vétusté des prisons belges. Plusieurs datent en effet du 19e siècle, plus du tout aux normes actuelles. Un arrêté royal vient de modifier la loi sur l'administration pénitentiaire. Elle précise les futures conditions de détention. Le pays se donne 20 ans. Toutefois, beaucoup pensent que la tâche est tellement grande que la Belgique n'y arrivera pas.
À chacun son fait divers fondateur. Amélie, la Russie rouvre aujourd'hui son plus célèbre cold case.
Oui, le Royaume-Uni a Jack l'Éventreur, les États-Unis leur tueur du Zodiac. Les Russes, eux, ont l'accident du col du Dyatlov. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire.
Pas du tout.
Mais le bureau du procureur général de Russie vient d'annoncer la réouverture de ce dossier encore bien mystérieux 60 ans après les faits. Ça remonte au 23 janvier 1959. 9 étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural partent en randonnée dans les montagnes. À leur tête, Igor Dyatlov, étudiant ingénieur. Il donne son nom à l'affaire et au col de la montagne où le drame s'est joué. Car au bout de quelques jours, on a retrouvé leur corps par groupe de 2-3 à plusieurs kilomètres du campement. Pour certains, ils étaient en chaussettes, voire pieds nus. Et l'enquête a conclu assez vite que 6 d'entre eux étaient morts d'hypothermie, les 3 autres d'une blessure grave. Et la cause officielle de la mort, ce sont des forces naturelles auxquelles on ne peut pas résister. Ouais, c'est un petit peu flou. Un tel empressement à conclure le dossier a tout de suite alimenté les théories les plus farfelues. Et à propos des entailles, par exemple, dans la toile de tente.
Pour moi, ce sont les étudiants qui les ont faites pour s'échapper de la tente.
Fuyez !
Alors voilà, l'une des nombreuses émissions qui ont tenté depuis de percer le mystère. Celle-ci s'interroge notamment sur la présence d'un yéti, un singe géant qui aurait effrayé les étudiants. D'autres ont vu une lumière dans le ciel, un ovni. Et puis certains pensent à un test militaire d'une arme secrète. Les étudiants témoins devenus gênants auraient été assassinés. Alors le mois prochain, des enquêteurs retournent sur le terrain. Ils ne travailleront que sur 3 théories, un ouragan, une plaque de neige ou alors une avalanche. 3 hypothèses seulement issues d'une liste officielle de 75 théories, de quoi faire douter encore les sceptiques.
Incroyable histoire. Allez, on ne quitte pas la Russie pour l'escale reportage. Amélie, merci beaucoup, à demain.